cette définition de la science. La science se définit comme la connaissance, spécialement la connaissance scientifique, ou dérivée du latin scientia, j'espère que ma collègue est d'accord, d'après la définition du petit Robert. Alors, on parle plus concrètement des sciences, qui sont des mots qui font référence à de nombreuses disciplines, c'est-à-dire domaines d'études. Donc, certaines de ces disciplines pratiquent un raisonnement dit exact, comme les mathématiques, et d'autres comportent une certaine dose de présupposés, hypothèses, conjectures et d'empirisme, comme la physique, la chimie, l'astronomie, etc. D'une manière générale, on peut qualifier de science toute discipline qui se pratique avec le raisonnement inductif, déductif et surtout contradictoire et aussi avec l'expérimentation. Donc la biologie, la géologie, l'archéologie, la sociologie, l'économie, voire les sciences littéraires, l'histoire, en sont des sciences. Alors le statut de science peut être contesté. Alors, c'est parfois le cas en ce qui concerne les sciences dites humaines, littérature, histoire, politique, etc. Et il est encore plus contestable si on prend l'exemple des sciences théologiques ou des soi-disant sciences occultes qui sont basées sur un savoir ésotérique assez peu propice à l'exercice du sens critique. Alors évidemment, si l'on s'en tient à l'étymologie, toute discipline qui recèle de la connaissance, quelle que soit la manière dont elle est obtenue ou pratiquée, peut revendiquer le statut de science. Bon, alors pour circonscrire le sujet et pour faire simple, je dirais que la science est la connaissance accompagnée des méthodes pour la faire progresser. Donc le savant est celui ou celle qui possède une certaine connaissance et le scientifique est un savant qui fait progresser la science, espérons-le. Alors, technique, adjectif et nom, est un mot emprunté au latin technicus, qui veut dire maître d'un art, spécialiste, toujours d'après le petit Robert. Alors le mot ne s'applique pas forcément à l'exercice d'un art matériel, électricité, hydraulique, cuisinage, etc. Par exemple, on peut dire qu'une démonstration mathématique est technique lorsqu'il s'agit de dérouler un ensemble de règles, compliquées certes, mais usuelles. Donc le mot a de nombreux dérivés, techniquement, technicien, technicienne, on comprend aisément le sens. Alors, il a donné aussi le vilain mot de technocrate, qui est une personne qui applique des règles apprises à l'école, aussi renommée soit-elle, sans se soucier du bien fondé et de la réalité de leur champ d'application. Alors, la technologie est un mot emprunté au grec ancien technologia, petit Robert, et désigne un traité ou dissertation sur un art. Dans son acception plus récente, il désigne la science des arts. Par exemple, je prends un exemple. L'étude et l'optimisation des procédés de fabrication relèvent de la technologie. Des connaissances sur toutes les phases de la fabrication sont nécessaires et rechercher le meilleur enseignement fait appel à des outils conceptuels à inventer. Ce qui n'est pas toujours facile de faire admettre que la technologie est une science. On a tendance à classer ces activités comme relevant de l'art de l'ingénieur. Mais il y a une trentaine d'années, un secteur du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, qui s'appelle SPI, Sciences pour l'ingénieur, a été fondé. Et la mission du SPI était précisément de fabriquer des outils conceptuels pour résoudre des problèmes que l'état de l'art de l'ingénieur ne permettait pas de résoudre. Alors, on perd souvent une distinction entre le chercheur et l'ingénieur, ou le technicien, le chercheur s'interrogeant sur les concepts, et l'ingénieur ou le technicien les mettant en œuvre, en particulier en vue des applications. Alors, compte tenu de ce que nous avons dit précédemment, compte tenu aussi du fait que les sciences sont de plus en plus interdisciplinaires, Il n'y a pas de frontière précise entre les uns et les autres, heureusement et tant mieux. Rappelons que le prix Nobel Georges Charpak a fabriqué des outils, des appareils sophistiqués qui ont permis à ses collègues de faire des progrès considérables dans la connaissance de l'atome sans que lui-même soit le concepteur de ses découvertes. Alors, il est d'ailleurs à déplorer qu'il subsiste des hiérarchies dans la classification des sciences, telle discipline étant soi-disant plus noble que telle autre, et le chercheur étant plus noble que l'ingénieur, lui-même étant plus noble que le technicien. Alors, en fait, le critère déplorable pour cette classification étant en général que plus les activités sont motivées par les applications, moins elles sont nobles, et plus elles sont inutiles, plus elles sont pures et nobles. Bon, ainsi, jusqu'aux 50 dernières années, a-t-on vécu sur un régime de préséance de la science par rapport à la technique, qui déteignait parfois sur la considération sociale et professionnelle accordée à leurs acteurs. Bon, manifestement, il y avait une certaine résistance pour s'intéresser aux applications. Alors, je tiens à dire donc que je défends l'opinion que tous, chercheurs, ingénieurs et techniciens, sont des scientifiques et, j'aurais dit, chercheurs et chercheuses, car la discrimination, comme on l'a dit, s'applique aussi entre hommes et femmes. Donc, je tiens à dire que je défends l'opinion que tous, chercheurs, ingénieurs et techniciens, sont des scientifiques et qu'il est inhérent à leur métier de choisir au mieux leur champ d'activité, le mieux étant là où ils manifestent du goût et de l'aptitude. Donc, pour le bien de la science, il faut accepter les recherches réputées inutiles, aussi bien que les recherches finalisées. Donc, c'est la liberté des scientifiques. Alors, nous en arrivons au mot technoscience. Le mot technoscience est un mot qui a été forgé récemment. Il a été introduit par le philosophe belge Gilbert Courtois. Il est devenu d'usage courant dans les années 1990. Alors, la notion de technoscience vise à combler le fossé entre science et technique et à penser les découvertes scientifiques et les applications dans un même contexte économique et social, d'après Wikipédia, qui est peut-être moins noble que le petit Robert, mais bon. Alors, dit comme cela, on ne peut qu'applaudir et constater que, de toute façon, compte tenu de l'accélération des connaissances, du fait que les disciplines sont de plus en plus interconnectées, les découvertes scientifiques débouchent rapidement sur des applications. Alors, on ne peut s'en plaindre si on prend, pour exemple, les progrès faits dans le domaine de la santé. Donc, la préséance de la science sur la technique est désormais dépassée. Alors, on peut donner une autre définition que j'ai piquée dans un ouvrage qui s'appelle « La Beau Planète », que certains d'entre vous connaissent certainement. Donc, technoscience, néologisme désignant l'interaction entre science et technique en vue de la production d'innovation pour une recherche finalisée. Alors, cette définition un peu moins angélique que précédente annonce une dérive, qui est la préséance de la technique sur la science. La préséance de la production d'innovation sur la recherche fondamentale, c'est-à-dire sur les connaissances. Mais c'est que le mot innovation possède à notre époque une connotation désagréable. Une innovation est un produit nouveau, plus ou moins utile, souvent inutile, mis sur le marché à des fins commerciales. Donc, dans un passé récent, l'après-guerre, l'État a respecté le savoir et la recherche fondamentale, l'université, et les centres de recherche étaient financés principalement sur fonds publics. Alors, de nos jours, l'État se désengage de plus en plus. Et voilà. Donc se dégage de plus en plus du financement de l'enseignement et de la recherche, encourageant à trouver des financements compensatoires dans le secteur privé. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Donc il s'agit d'une conception ultralibérale dans l'esprit des gens qui nous gouvernent, que ce soit les politiques ou les financiers, qui ne peuvent imaginer qu'une activité ne soit pas source de bénéfices à court terme. Donc les décideurs sont de plus en plus les dispensateurs de ressources privées, ils ont leur porte-parole dans les instances publiques, ils fixent même les directions de recherche, ils sont possesseurs des résultats qui sont brevetés, ils détiennent le monopole des innovations et leur exploitation procure aux actionnaires des bénéfices importants. Alors, de nombreux exemples sont connus dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie agroalimentaire dont on a parlé tout à l'heure, dont on n'a pas fini de parler. Et donc, le plus grave, c'est que le bien que pourraient apporter ces innovations échappe au plus fort. Bon, donc je viens de jeter quelques bases pour le débat qui vous suivre. Et bon, je vous présente aussi d'autres questions corollaires. Alors, la science est-elle notre bienfaitrice ou est-elle la cause de tous nos maux? Bon, ça, c'est l'air connu, là. Le scientifique doit-il être libre dans ses choix de recherche? Tous les sujets de recherche sont-ils acceptables? Alors, le scientifique est un fonctionnaire salarié d'un groupe privé. Peut-il vivre en ignorant les besoins de la société et quels devoirs doit-il assumer? Quelles sont les instances habilitées à indiquer des directions de recherche? Le citoyen non initié, c'est-à-dire le contraire d'un expert, est-il habilité à exprimer un avis sur les directions de recherche? Bon, puis là, deux questions un peu provocatrices pour terminer. Qu'est-ce qu'une recherche démocratique? Une recherche démocratique est-elle possible? Voilà, bon, en guise d'introduction.
Merci, donc le débat est ouvert. En tout cas, nous, quand on a commencé à programmer le festival, on avait beaucoup de mal. On sentait qu'il fallait mêler l'art et la science. Et aussi bien Paul, lors de l'ouverture du festival, que là maintenant, que Marie tout à l'heure, il y a beaucoup de questions d'inutilité et de limites grâce à l'inutilité et de contrôle donc de la science. Donc, je vois qu'il y a quand même un lien évident entre la science et l'art. Hein. Ça, c'est quelque chose qui, oui, qui tourne depuis hier déjà. Là, qui commence à...
Et avant de céder aux questions, j'en profite pour dire ce que j'ai dit aux artistes l'autre jour. C'est la science est un art. Et pas seulement parce qu'il y a des scientifiques qui produisent des œuvres d'art. Bon, par exemple, je pensais à Mandelbrot qui a fait de très belles peintures, de très belles images à partir des ensembles fractales, bon, c'est une chose. Mais c'est parce que, en fait, le scientifique, quand il travaille, il voit des structures et il les reconnaît comme belles ou elles lui donnent de l'émotion. Donc ces structures, il faut apprendre à les décoder. Par exemple, quand on regarde une peinture d'un cubiste, bon, à l'époque, ces peintures choquaient énormément et on nous a appris à voir, à interpréter la nature, bon, de cette manière-là, en morceaux de cube. Dans la musique, c'est la même chose, il y a des musiques qui ne sont pas disons, spontanées à comprendre, à interpréter, bon, comme la musique sérielle. Mais si on vous explique la structure, alors on peut avoir une émotion. Et bien dans la science, c'est la même chose. Il faut expliquer la structure, mais la science s'organise en structure, y compris les mathématiques ou l'univers, etc. Et que ces structures ont une certaine beauté, elles donnent de l'émotion. Et puis j'irai jusqu'à dire une belle découverte, bon, c'est une œuvre d'art. Voilà.